De Radio Classique avec David Abiker.
Il est 8h11, c'est l'heure de retrouver l'éditorial avec Le Figaro et avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume.
Bonjour David.
La liberté garantie de l'avortement est désormais inscrite dans la Constitution. Peut-on parler d'un vote historique?
Écoutez, on peut en tout cas parler d'un vote écrasant, en remarquant qu'à chaque étape du processus législatif, le nombre d'opposants à cette constitutionnalisation n'a cessé de reculer pour finir à 72 seulement, soit 8% des parlementaires. Peut-on pour autant parler de vote historique? Bon, il l'est dans la mesure où cela faisait 16 ans que l'on n'avait pas touché à la Constitution, et il est aussi compte tenu du fait qu'il y a peu de sujets qui revêtent une dimension aussi symbolique. Alors, l'est-il par l'ampleur du vote? Pas spécialement, hein. Toutes les révisions constitutionnelles que l'on peut qualifier de sociétales, que ce soit pour inscrire l'abolition de la peine de mort, la parité ou la charte de l'environnement, l'ont été avec des majorités aussi fortes et même les trois fois avec encore moins de voix contre. Enfin, faut le dire, hein, il n'y avait aucun suspense. Depuis le vote des deux assemblées, l'affaire était entendue, ce qui a même conduit certains députés au départ contre à se réfugier dans une abstention plus tranquille. En conséquence, l'absence de suspense a été compensée par un surcroît de solennité, de grandiloquence et d'émotion de la part de ceux qui voulaient en faire justement un acte historique.
Alors dans tous les groupes, y compris chez les Républicains et au Rassemblement National, les votes pour ont été largement majoritaires. N'est-ce pas ce qui est le plus significatif sur le plan politique?
C'est effectivement ce qui est le plus spectaculaire et inédit, même si à LR et au RN, beaucoup de votes s'expliquent d'abord par la crainte d'être taxés d'ennemis de l'avortement en cas de vote contre. Certains ne voulaient juste pas apparaître comme étant minoritaires sur le sujet. D'ailleurs, quoi que chacun puisse penser de cette question, dans un tel climat de quasi-unanimité, assumer d'être minoritaire, voire isolé, hein, comme c'est le cas de ces 72 parlementaires, cela suppose aussi du cran et des convictions.
Alors ce vote éclatant est-il une victoire pour Emmanuel Macron qui a voulu ce congrès?
C'est une victoire incontestable, hein. Oui, vous noterez au passage que cette fois, hein, il n'est plus question de faire le tri entre les voix qui seraient républicaines et celles qui ne le seraient pas. Cette fois, on compte tout le monde, hein. Les LFI, les RN, tout le monde redevient subitement fréquentable. Victoire de Macron donc, mais les pères, ou plutôt les mères de la victoire, sont nombreux. Et dès hier, les querelles commençaient. La gauche accusant Gabriel Attal de ne pas avoir rendu à Mathilde Panot. Une Mathilde Panot qui n'a pas hésité à poster un montage photo se mettant à égalité avec Simone Veil. Il fallait quand même oser. Quant à savoir si ce climat de quasi-unanimité au Parlement peut rejaillir sur l'image de l'exécutif, ça c'est une toute autre question. Même si l'opinion est favorable à la constitutionnalisation de l'IVG, une partie d'entre elles peut se demander si la solennisation de ce moment n'était pas aussi une grosse ficelle tactique pour masquer les difficultés à régler des crises ou à faire avancer des réformes sur des inquiétudes plus quotidiennes. Et de ce point de vue, la journée d'hier pour l'exécutif est plus une parenthèse qu'une bascule dans un état de grâce.
Merci Guillaume. Éditorial à retrouver sur lefigaro.fr en vidéo, de même que l'entretien qui va suivre. Elle est rabbin, un rabbin très libéral. Il y a exactement 3 ans, elle publiait « Vivre avec nos morts ». 3 ans plus tard, elle doit vivre avec les morts du 7 octobre et peut-être aussi avec ceux qui sont morts à Gaza. Elle vient de publier « Comment ça va pas ?», un recueil de conversations imaginaires paru chez Grasset pour questionner la tragédie du 7 octobre et ses suites.